Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, Google X, le laboratoire de Google spécialisé dans les technologies dites de rupture, travaillerait à la mise au point d'un prototype de nanoparticules destinées à la détection de maladies précoces. Les nanoparticules artificielles et la nanotechnologie, un secteur en pleine expansion scientifique et économique, tant et si bien que l'intellectuel français Jacques Attali, habitué des prédictions, dit que c'est là l'un des secteurs économiques de demain. Alors, les nanos, qu'est-ce? Voilà, pour cette émission, donc, nanotechnologie, avenir ou danger, je reçois ce matin Gwenaëlle Rappen. Vous êtes professeur à l'université Paul Sabatier et chercheur au CMS, CNRS, spécialiste donc des nanotechnologies. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, rude tâche pour vous parce que vous allez nous dégrossir sur les nanotechnologies et Dieu sait s'il y a du travail, en tout cas pour ma part. J'espère que pour les auditeurs qui sont davantage familiers des nanotechnologies, ils nous excuseront. Peut-être faut-il commencer tout simplement par définir ce que c'est que ces nanotechnologies où avant, vous aviez entendu parler de vous connaissez ce laboratoire X?
Oui.
C'est très connu aux États-Unis.
Il y a des centaines de millions de dollars qui sont investis par Google pour justement pour utiliser les résultats des nanotechnologies dans la médecine.
Bon, alors voilà, donc vous allez nous expliquer. En tout cas, si on doit commencer par le début, qu'est-ce que c'est que la nanotechnologie? Imaginez qu'on n'y connaît rien, comment vous nous expliqueriez, comment vous définiriez ça?
Les nanotechnologies, déjà, c'est les technologies qui permettent d'étudier l'échelle du nanomètre. De manière plus générale, les nanos, c'est présent dans toutes les sciences, donc on appelle ça les nanosciences. Et les nanosciences ont été imaginées il y a longtemps, dans les années 60, par Richard Feynman, un Américain. Mais à l'époque, on n'avait pas du tout les outils pour sonder l'échelle du nanomètre. Parce que l'échelle du nanomètre, imaginez par exemple une fourmi. Une fourmi, ça fait à peu près un millimètre. 1000 fois plus petit qu'une fourmi, on a déjà du mal à se l'imaginer. On va être à l'échelle du micron. Et ensuite, à l'échelle du micron, il faut encore aller 1000 fois plus petit pour arriver à l'échelle du nanomètre. Donc c'est une échelle, on a énormément de mal à se l'imaginer. Il y a la même échelle, il y a le même passage de quand on passe d'une balle de tennis à la taille de la planète Terre. Vous voyez,
c'est ce que j'avais cité dans l'introduction de l'émission, une orange et la Terre.
Orange, une balle de tennis ou la Terre. Donc c'est vraiment l'échelle, une échelle toute petite que personne n'arrive à s'imaginer. Et donc pendant des années, on parlait des nanosciences, mais sans pouvoir avoir les outils pour voir un atome, pour voir une molécule. Et fin des années 80, début des années 90, tous ces outils sont devenus disponibles.
Donc ces outils, si j'ai bien compris, c'est le microscope tunnel et à force atomique.
Il y a deux types de microscopes. Il y a le microscope à effet tunnel. Donc là, c'est un microscope qui permet, avec des électrons, de voir un atome, ou même de manipuler un atome, c'est-à-dire le déplacer sur une surface. On peut même écrire par exemple des lettres sur une surface métallique avec des atomes. Et on peut aussi les manipuler. Par exemple, nous au laboratoire, on a fait un moteur moléculaire, on arrive avec des électrons à faire tourner une partie d'une molécule sans faire tourner l'autre partie, et donc avoir une machine moléculaire.
Mais comment ça fonctionne, ces microscopes tunnels ou à force atomique? Expliquez-nous peut-être un tout petit peu plus.
Eh bien, imaginez qu'on est... Ben là, on a une table, donc une table métallique, et on va avoir comme une main avec une pointe, et cette pointe va donner des électrons, et ces électrons passent de la pointe à la table. Et donc, à la manière d'un aveugle, on va scanner, on va passer le doigt sur cette surface, et donc on va pouvoir détecter où sont les atomes, ou les molécules, ou tous les objets de taille nanométrique, parce que cette pointe est très 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 précise. Les courants qu'on fait passer sont aussi très 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 précis, c'est des picoampères. Donc un picoampère, c'est encore un millième de nanoampère. Donc un ampère, on sait ce que c'est, hein, c'est l'énergie pour une machine à laver, ça va être une dizaine d'ampères pour faire tourner une machine à laver. Un nanoampère, donc c'est déjà tout tout petit, puisque c'est un million de fois moins, et là on a encore un moyen de détecter encore plus petit. Picoampère, c'est un millième, c'est encore divisé par mille, de nanomètres.
Et de quand datent ces découvertes, le microscope tunnel ou à force atomique, ça date de quand?
Ça a été mis au point au début des années 80, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a été mis au point par IBM, donc par une entreprise. Une entreprise qui a vraiment un département de recherche fondamentale à la pointe des technologies. Et on voit bien aussi le lien qu'il pourra y avoir ensuite avec l'informatique, puisque IBM, c'est quand même une grosse boîte d'informatique. Et donc, ça a été mis au point par des Suisses, Binnik et Rohrer, qui ont eu le prix Nobel, d'ailleurs, pour ça, en 84. Et après, ça s'est développé, parce que forcément, dans le milieu scientifique de la recherche fondamentale, ça a été une explosion. Cette découverte, ça a complètement débloqué toutes les sciences à l'échelle du nanomètre. 10-15 ans avant, il y avait encore dans des congrès des scientifiques qui disaient qu'on ne pourrait jamais voir un seul atome. On ne pourrait jamais manipuler un seul atome. C'était un rêve, c'était inaccessible. C'était même pas de la science-fiction, c'était de la fiction. Et en fait, la fiction, elle est devenue science, en l'échelle de 10 ans.
Alors, vous avez cité donc un certain Richard Feynman, qui, semble-t-il, donc, dans un discours en 1959 à la Société américaine de physique, aurait dit que l'infiniment petit avait été inexploré, et il avait ajouté dans lequel peu de choses ont été faites et dans lequel beaucoup reste à faire. Puis je crois qu'il y a une autre expression, peut-être que vous nous citerez, qui disait que le nouveau champ d'exploration, c'est plus le monde, mais c'est l'infiniment petit.
Voilà, en anglais, there is plenty of room at the bottom. Donc en fait, Richard Feynman, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a eu une vision, vraiment. Il a imaginé pouvoir faire des choses à l'échelle du nanomètre alors que les outils n'existaient pas du tout. Et qu'il y avait même 95% des gens qui disaient que ces outils, on ne pourrait jamais les mettre au point. Donc par exemple, il est resté célèbre pour cette idée que sur une pointe, sur la pointe d'une aiguille, hein, le côté pointu d'une aiguille, quand on couvre, on a des aiguilles, vous voyez, ce genre d'aiguille, on pouvait, avec des atomes, rédiger la totalité, recopier la totalité de l'encyclopédie Britannicus, donc l'équivalent de l'encyclopédie Universalis.
C'est une idée qu'il avait eue.
C'est une idée qu'il avait eue, qui était possible, et maintenant on peut le faire.
Ça existe en fait.
Ben maintenant, personne s'est amusé à le faire, mais technologiquement, on a les outils pour le faire. Bon, le seul petit bémol, c'est que pour que les atomes ne bougent pas et qu'on puisse écrire avec, il faut rester à des températures très basses, de moins 268 degrés Celsius. Voyez, donc c'est dans le domaine applicatif, ça a aucun sens. En tout cas, c'est possible de le faire.
Alors, on verra justement après les applications. Est-ce qu'il y a d'autres grandes figures comme ça, donc des on va dire de la découverte des nanoparticules ou des nanotechnologies qu'il faudrait citer? J'avais vu en préparant l'émission un certain Eric Drexler. Je ne sais pas si vous connaissez.
Eric Drexler, c'est pareil. C'est pas vraiment un scientifique. C'est plus un rêveur qui a ouvert des perspectives aux chercheurs, en fait. Eric Drexler, quand on regarde sur quoi il a travaillé, il a imaginé plein de petites machines moléculaires, par exemple. Mais du point de vue structural, ça n'a aucun sens. Les liaisons qu'il imagine entre des atomes ou des molécules, elles ne peuvent pas exister. Donc c'est assez rigolo parce qu'on a ces idées qu'avec quelques atomes, on peut faire des machines. Mais lui-même, scientifiquement, il n'avait pas les moyens d'identifier quel genre d'atomes ou de molécules on pourrait utiliser pour ça. Donc c'est très proche de Feynman, il a eu plein d'idées, des visions de ce qu'on pourrait faire avec des machines toutes petites. Hein, on regarde son site web, il y a des engrenages, des choses comme ça, mais ça n'a aucun sens scientifiquement, ni du point de vue de la chimie pour la structure des molécules, ni du point de vue de la physique, parce qu'il ne tient pas compte du tout des propriétés physiques à l'échelle du nanomètre. Il a un côté très Lego. Il va prendre des modèles et puis il va considérer que c'est comme des Legos qui se lient ou se délient les uns avec les autres. Et il ne tient pas compte. Par exemple, à l'échelle du nanomètre, il n'y a pas d'inertie. Imaginez une centrifugeuse. Vous savez ce que c'est une centrifugeuse ou un manège? Quand on regarde ces manèges, et plus on tourne vite, plus les fauteuils vont vers l'extérieur. Hein, la force centrifuge. Vous connaissez la force centrifuge? Eh bien, à l'échelle du nanomètre, ça ne peut pas exister, ça. Parce que c'est lié à la masse. Et la masse, elle est beaucoup plus faible que toutes les forces mises en jeu. Donc, si vous avez un manège de la taille de quelques nanomètres, les fauteuils du manège, ils vont rester verticaux parce qu'ils ne vont pas ressentir de force centrifuge. Donc, toute la physique, en fait, est différente. Là, je vous faisais juste un petit exemple, mais toute la physique est différente.
En tout cas, donc vous dites que la découverte des outils... Enfin, il y a une sorte de prédiction, en fait, donc après-guerre, la découverte des outils daterait des années 80, et vous me disiez un petit peu en amont, là, en préparant l'émission, qu'en fait, il y a une révolution scientifique dont vous avez parlé rapidement, et puis une révolution industrielle qui, en fait, est en cours, et ce, depuis maintenant au moins 5, 10, 15 ans. Alors, vous voyez, moi, je suis probablement un dinosaure, mais je n'avais pas mesuré que c'était... Vous dites que c'est l'équivalent de la révolution industrielle au 19e siècle.
Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on a eu les outils pour étudier très précisément l'échelle du nanomètre, ça a permis, en fait, dans toutes les disciplines scientifiques, hein, en biologie, en chimie, en physique, en médecine beaucoup, de voir précisément ce qui se passait à l'échelle du nanomètre. Et donc, scientifiquement, c'est allé très vite, parce qu'il y avait une espèce d'impatience des gens de... Les gens étaient frustrés pendant très longtemps de ne pas pouvoir justement sonder la matière à l'échelle du nanomètre, sonder les propriétés à cette échelle. Et donc, ça a avancé très vite. Et en parallèle, bien décalé de quelques années, mais en parallèle, comme ça a pénétré tous les champs disciplinaires, ça a aussi pénétré à peu près tous les champs, toutes les entreprises, tous les champs industriels. Et donc oui, moi je suis persuadé que dans 10 ans, tous les produits auront quelque chose de nano à l'intérieur. C'est déjà le cas pour beaucoup. Maintenant, dans les lessives, dans l'électronique, dans plein de choses, il y a du nano.
Donc il n'y a aucun champ scientifique qui échappe au nano d'une certaine manière aujourd'hui.
Ben, je dirais les maths fondamentales peut-être. Parce que c'est beaucoup, hein, c'est uniquement des équations, ça utilise que l'esprit. Donc y a pas... Mais toutes les sciences expérimentales ont pénétré l'échelle du nanomètre.
Alors, vous me disiez aussi en préparant l'émission que l'investissement en matière de nanosciences, on dit du coup,
c'est plutôt nanosciences.
Nanorecherche, en fait.
Nanotechnologie, c'est juste un aspect technique des nanosciences.
Voilà, est très inégal à travers le monde et que la France et l'Europe ne seraient pas du tout pionnières en la matière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les grands lieux de recherche dans le monde et puis si vous avez une idée, je ne sais pas, des laboratoires que vous pouvez décrire qui disent l'ampleur de cette recherche qui existe à travers la planète?
En fait, le financement de la recherche dans le domaine des nanosciences, ça a vraiment explosé aux États-Unis avec un plan énorme de plusieurs centaines de millions de dollars. Et je pense qu'il y a des pays en Asie qui ont aussi mis beaucoup de moyens, comme la Chine, le Japon. Par exemple, pour faire une comparaison, le Japon, moi j'y travaille à mi-temps en ce moment, le Japon, ils ont plus de 4% du produit national brut qui est dédié à la recherche. Recherche enseignement supérieur. En France, on n'est même pas à la moitié. On est à moins de 2%. Le but, il y a en 2000, le but était d'arriver à 3% pour financer la recherche. Donc on est très en dessous en Europe. Alors, il y a quand même des financements qui existent, hein, mais le problème qu'on a en France, c'est que c'est de plus en plus applicatif. En France, nos politiques, ils veulent avoir une recherche qui soit pilotée par des gens qui n'y connaissent rien et qui se disent que dans 3 ans, on peut dire, voilà, on aura travaillé sur un projet et qu'au bout de 3 ans, on aura ça. En recherche, c'est un non-sens. On n'a pas du tout... On sait qu'on va travailler, on sait qu'on va découvrir des choses, mais ça peut être des choses positives qui vont donner un produit qui sera commercialisé ou des brevets, mais ça peut être aussi quelque chose qui fait juste avancer les sciences fondamentales. Et même les échecs, c'est de la connaissance. De se dire que quelque chose ne marche pas, bah c'est très intéressant de savoir que ça ne marche pas, de savoir pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que plus tard ça marche.
Et c'est une longue habitude française ou c'est une habitude assez récente de négliger la recherche fondamentale?
La recherche fondamentale, disons qu'il y a 10 ans, elle était très bien, il y a 15 ans, elle était encore très bien soutenue. Et puis à l'échelle de 5 ans, elle était beaucoup moins. Par exemple, on a mis en place l'ANR, l'Agence nationale de la recherche en France. Cette agence, il y a encore 5 ans, 40 ou 50% du budget, c'était pour financer la recherche fondamentale. Ben maintenant, on en a 10%. 10% de financement de la recherche fondamentale. Ailleurs dans le monde, les gens ne font pas tant de discrimination entre recherche fondamentale et recherche appliquée. En recherche fondamentale, bien sûr, il y aura des développements en recherche appliquée. Mais il ne faut pas être trop appliqué, sinon ce n'est plus de la recherche. C'est juste du développement, vous voyez.
Donc, en France, vous dites que c'est des centaines de millions. Moi, j'ai cru oui. Centaines de millions ou plus de dollars. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'en Europe, il y avait 1,3 milliard d'euros qui avaient été investis entre 2002 et 2006 et qu'il y aurait un plan aussi Nano 2017 qui aurait été lancé à hauteur de 600 millions d'euros pour l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à se réveiller, c'est ça, en Europe et en France?
Heureusement qu'il y a l'Europe, oui. nous, sans les financements européens au laboratoire, on aurait arrêté la recherche fondamentale depuis 10 ans. C'est que vraiment... On critique beaucoup l'Europe pour plein de choses. Alors oui, surtout en France, on aime bien dire que c'est toujours la faute des autres à l'extérieur. Mais au niveau de la recherche, il n'y aurait pas eu l'Europe, il n'y aurait plus de recherche française, franchement. C'est quelque chose qui, dans tous les laboratoires, a été très très important. Moi, je me souviens, il y a 5 ou 7 ans, le budget du labo, à 80%, c'était du budget européen qui venait de l'Europe. Donc actuellement, ça s'est un peu plus rééquilibré avec les financements nationaux. Mais l'Europe, en recherche, c'est prépondérant. Et on a un très grand avantage en Europe, c'est qu'on peut faire des réseaux européens avec les autres pays d'Europe. Et ça n'existe pas à l'étranger. Et ça donne une synergie à nos activités de recherche. Mais au niveau du financement, on reste quand même derrière les États-Unis ou l'Asie, hein.
Voilà, et en tout cas, le potentiel économique, je ne sais pas comment on peut dire ça exactement, serait aux alentours de 1 000 milliards de dollars. En tout cas, c'est peut-être certaines prédictions, je ne sais pas si vous dites...
C'était des prédictions en 2000, quand les Américains ont lancé leur grand programme nano, et je pense qu'on est à peu près peut-être à la moitié, parce qu'ils avaient été un peu survendu le truc, comme ils savent faire vraiment aux États-Unis. Mais cette échelle de grandeur, je pense que toutes les entreprises, maintenant, la valeur ajoutée, elle est dans la qualité du produit, dans l'efficacité du produit, et tout ça, c'est lié au nano.
Alors, on va faire une pause, première pause musicale, et puis après, on va voir des plus précisément des domaines d'application. J'en ai cité en introduction, donc avec cette recherche menée au sein du laboratoire Google X, donc d'espèces de quoi, de nanoparticules, en fait, qui aideraient à la détection des maladies. Mais on verra qu'il y a plein d'autres champs d'application. Vous allez avoir la patience de nous expliquer tout ça.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Nanotechnologie, avenir ou danger, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et nous sommes donc avec Gwenaëlle Rappen, qui est professeure à l'université Paul Sabatier, chercheure au CMS-CNRS et laboratoire spécialisé donc dans les nanosciences. Je précise que les nanotechnologies ne sont pas sans poser de questions en partie éthiques. On verra ça un petit peu plus tard dans l'émission et que c'est entre autres ce qui justifie le fait que l'on parle dans le cadre de Vivante Église. Et puis peut-être l'aurez-vous remarqué, les jeudis on s'essaye à des sujets de société, donc les nanosciences ou les nanotechnologies en sont une. Un, pardon. Vous nous avez expliqué donc que le nanomètre, c'est donc, je résume hein, très rapidement cette première partie, il y a donc des outils en fait, scientifiques qui ont été développés dans les années 80, vous me direz si j'ai bien compris, entre autres le microscope tunnel et à force atomique qui permettent donc de voir à l'échelle du nanomètre, c'est la différence entre une balle de tennis et la Terre, pour faire court, et que donc depuis les années 80, il y a toute une révolution en fait scientifique et donc industrielle qui s'est mise en route, et vous dites que cette révolution industrielle est presque équivalente à celle de la révolution industrielle du 19e siècle. Il y a donc des champs d'application de cette révolution, vous dites qu'en fait on est passé de la fiction à la science, vraiment, aujourd'hui, donc il y a des réalités, alors vous allez nous aider à en découvrir. Le premier champ d'application, c'est donc un champ d'application technique, entre autres avec des nanotubes. Alors qu'est-ce que c'est que des nanotubes? Comment on fabrique des nanotubes et à quoi ça sert?
Alors les nanotubes, en principe, c'est des nanotubes de carbone. Donc c'est des fibres qui ne sont composées que de carbone. Donc dans les années 70-80, déjà, on avait mis au point des matériaux, on appelait ça fibres de carbone, dans lesquels il y avait des nanotubes, mais on n'était pas capable à l'époque de les faire proprement, de les faire de manière contrôlée, etc. Donc ça permet, si on fond ce genre de matériaux carbonés dans une résine, on va obtenir un matériau qui va être très solide, tout en étant très léger.
Alors juste, comment on fait pour construire des nanotubes? C'est-à-dire des tubes qui sont donc à une échelle...
Si vous prenez une feuille de papier et que vous repliez la feuille de papier sur elle-même, vous avez un peu comme un tuyau, et ce tuyau est fait de carbone, et donc le diamètre est de quelques nanomètres. Ça peut être de 1, de 2 nanomètres, ça dépend de la manière de le faire. Donc on a des recettes de cuisine, en quelque sorte, pour créer ce genre de matériaux, maintenant de manière très contrôlée. On peut faire un fil, je crois que le record du monde, c'est de faire un fil qui fait 1 nanomètre de diamètre, donc la taille qu'on a dit tout à l'heure, 1 millionième de millimètre, donc vraiment tout petit, sur 15 cm de long, 15-20 cm de long. Et c'est juste un fil, alors le diamètre du fil, on ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est un fil. Et c'est très 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 solide, c'est beaucoup plus solide que le béton, c'est beaucoup plus solide que le Kevlar, que l'acier. C'est quelque chose qui a vraiment une solidité phénoménale,
et pourquoi,
tout en étant très léger et très souple. Parce qu'il y a une cohésion atomique qui est très très grande. Alors ces fils, on peut aussi les tresser, on peut les faire, on peut les mettre en forme de manière particulière, comme faire des cordes ou des câbles avec ces fils. Et donc c'est très 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 solide.
Alors je reviens, comment on fait pour construire ça? C'est-à-dire comment on fait pour faire des nanotubes? On
a une machine qui permet une source de carbone, on part de graphite, hein, les mines de crayons par exemple, on part de mines de crayons et on balance beaucoup d'énergie dessus, à base de laser, sous un flux de gaz, etc. Donc il y a des méthodes comme ça, et ça permet d'avoir de tisser ces fils de carbone sur mesure.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme champ d'application? C'est-à-dire à quoi servent ces nanotubes de carbone?
Est-ce que en premier lieu, pour renforcer tous les matériaux qui existent. Dans les nouveaux Boeing, le Dreamliner de Boeing, ils appellent ça des fibres de carbone. En fait, c'est des nanotubes qu'il y a à l'intérieur. Donc les matériaux, ce sont des résines synthétiques dans lesquelles on a dilué des nanotubes. Donc c'est 100 ou 1000 fois plus léger que...
Donc des millions de nanotubes, on imagine, non?
Ah, des millions de milliards. C'est phénoménal. Quand on a un gramme de molécules, quand on est une molécule, mais qu'on en a un gramme dans un pot, ça correspond déjà à des millions de milliards de molécules. Parce qu'on est à l'échelle du nano. Les molécules sont toutes petites. Donc c'est vraiment des chiffres qui dépassent l'imagination.
Voilà, ils font la même chose chez Airbus ou pas?
Airbus, je crois que la 350 qui va sortir, il est aussi à base de ce genre de matériaux.
Donc ça permet quoi? De renforcer par exemple les ailes ou de...
Mais ça permet d'avoir...
Des avions plus légers et plus résistants?
Surtout plus légers. En général, ce qu'ils essayent, c'est d'avoir la même résistance, parce que ce qu'ils veulent, c'est que ce soit résistant. Ça n'a pas besoin d'être 100 fois plus résistant, mais surtout beaucoup plus léger. Et plus léger, ça veut dire consommer moins de kérosène, ça veut dire le coût par passager est plus faible, ça veut dire que c'est plus respectueux de l'environnement. Enfin, il y a que des gains. Hein, on va parler un peu plus tard de tout ce qui est toxicité et éthique, mais le nano, partout, ça donne des... On est à fond dans le progrès, quoi.
J'avais un autre exemple en tête qui est une espèce de toile d'araignée en fait qui serait en nanotube, c'est-à-dire qui pourrait arrêter des véhicules par exemple en cas de sortie de route ou autre, une espèce de toile d'araignée géante en fait qui avec ces nanotubes qui permettrait à la fois une profonde résistance et en même temps une certaine souplesse. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça?
Une souplesse énorme, oui, justement, c'est très très souple. Ça casse pas. La solidité, elle vient de là. Elle vient aussi du fait que c'est des matériaux qui sont très souples.
C'est
vraiment comme une corde.
Donc on pourrait imaginer quoi, une espèce de toile d'araignée de nanotubes
sur les
autoroutes en cas de sortie de route, c'est ça?
Ça coûterait cher, mais c'est imaginable. Oui, et puis c'est le genre de choses qui coûte cher actuellement, mais dans 10 ans, ça coûtera plus rien parce que les technologies progressent très vite. Il y a même des projets. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver un projet d'ascenseur pour l'espace parce que c'est tellement solide que ce qui n'était pas possible avec des câbles en acier ou en Kevlar. Ça devient possible avec des câbles en nanotubes.
Attends, expliquez-moi, là, je comprends rien. C'est quoi un ascenseur pour l'espace? Vous avez l'air surpris que je ne comprenne pas, mais oui, je ne dois pas être le seul.
Il y a une station spatiale dans l'espace.
Oui, je sais.
Quelques centaines de kilomètres de la Terre. Et actuellement, il faut envoyer des navettes, etc. Ça coûte très cher. Et il y a un projet de faire un ascenseur. Donc, de relier par un câble d'une centaine de kilomètres la Terre. Donc en fait, ce ne serait pas la Terre, ce serait une plateforme sur l'océan, parce qu'il faut de la souplesse, il faut que ça bouge, et relié à la Station Spatiale Internationale avec un système d'ascenseur qui permettrait d'envoyer des vivres, d'envoyer des astronautes, etc.
Et donc
scientifiquement, c'est possible.
Et les nanotubes, qu'est-ce qu'ils viennent faire de là-dedans?
Les nanotubes, ce seraient les constituants des câbles, parce qu'ils sont suffisamment solides pour ce genre d'application.
Solides et souples.
Souple et solide. Il faut que ce soit souple parce que si vous mettez un câble rigide, dès que la Terre tourne, ça va casser, ça va être cassant. Donc il faut quelque chose qui soit souple et solide à la fois.
Et donc c'est imaginable ça, je veux dire.
C'est scientifiquement possible. Actuellement, ça aurait un coût phénoménal.
À quel horizon vous pensez qu'on pourrait faire ça?
Sur leur site web, ils ont même un compte à rebours.
Site web, c'est-à-dire?
Si vous tapez dans un moteur de recherche Space Lift, donc ascenseur pour l'espace en anglais.
Pourquoi c'est une entreprise qui a monté?
Oui. Une entreprise qui a monté ce projet. Et je ne sais pas où ils en sont dans leur financement, etc. Mais c'est quelque chose, comme c'est scientifiquement possible...
Bon, vous avez bien fait de venir ce matin. Vous nous dégrossissez, enfin, vous me dégrossissez.
Voilà, mais là,
en
on est encore, je dirais, dans la science-fiction, parce qu'il y a quand même des coûts énormes.
Oui, enfin, en 1959, c'était de la science-fiction
tout
pour Richard Feynman qu'on découvre le nanomètre. Donc, on peut imaginer que les choses vont avancer. Autre exemple d'application, on va passer à un champ d'application biologique. Je citais en introduction donc, ce projet donc, au sein du laboratoire Google X, spécialisé dans les technologies de rupture. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je répète sagement ce que je lis. Donc, ce projet donc, de nanoparticules destiné à détecter précocement les maladies. C'est quoi en fait? C'est des nanoparticules qui iraient en fait dans le corps humain et qui détecteraient notre état de santé,
voilà,
nos maladies potentielles.
Avec cette échelle de taille, la nanoparticule, on est à l'échelle de la taille des molécules et donc on peut passer les barrières, on peut passer les cellules, on peut tout passer et donc on peut aller détecter par exemple une cellule cancéreuse. On sait reconnaître sur les cellules cancéreuses des particularités par rapport aux cellules saines et donc si on apprend à la nanoparticule à rentrer en contact spécifiquement avec les cellules cancéreuses, elle va aller directement vers les cellules cancéreuses. Donc si vous avez un moyen de voir ça, et puis maintenant des moyens on en a, je vous ai dit, c'est les nanotechnologies nous les ont donnés, on peut voir où sont les cellules cancéreuses grâce à la présence de ces nanoparticules. Et il n'y a pas seulement le côté diagnostique, c'est qu'il y a aussi le côté curatif. C'est qu'une fois que les nanoparticules sont là, ou en tout cas avec d'autres types de nanoparticules, on peut les amener au voisinage de ces cellules cancéreuses pour qu'elles détruisent spécifiquement ces cellules cancéreuses. Ça, il y a déjà pas mal de start-up qui sont là-dedans pour faire du curatif.
Vous voulez dire qu'on s'essaye aujourd'hui à soigner le cancer comme ça?
Ah oui. Il y a déjà des cas, je pense que ça va être mis sur le marché d'ici quelques années, si ça l'est pas déjà.
Alors comment ça se passe? Je sais pas. On a une seringue et de nanoparticules qui partent dans le sang et vont attaquer les cellules cancéreuses.
Quand on veut faire du diagnostic, ce qu'il faut faire, c'est juste reconnaître la cellule cancéreuse et puis avoir un moyen de donner l'information à l'extérieur. Donc ça peut être fait avec des espèces de microscopie, avec des espèces de...
Mais comment on envoie une nanoparticule déjà? Enfin, c'est bête.
Ça part dans le fluide...
Mais comment on fait pour la prendre et l'emmener et puis la détecter à l'intérieur du corps humain?
Ben, pour la prendre, je veux dire, ça c'est comme la chimie qui existe depuis 100 ou 200 ans. C'est, on a, dans un solvant, on a des molécules. Donc là, au lieu d'avoir des molécules, on a des nanoparticules. Et puis on fait de la chimie dessus. On va les coiffer avec une petite queue qui va permettre de reconnaître la cellule cancéreuse. Et puis après, on l'injecte. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, c'est vraiment des techniques très classiques. Ce qui permet de faire ça et ensuite d'être efficace, c'est les technologies qui ont permis ensuite de visionner les cellules, de visionner où va la nanoparticule, etc. Donc si, une fois que la nanoparticule est sur... une fois qu'on sait qu'il y a des cellules cancéreuses, on peut, avec d'autres types de nanoparticules, s'accrocher sur les cellules cancéreuses et puis les cramer, les brûler. Il y a des nanoparticules comme ça, quand on leur met de l'énergie, alors ça peut être micro-ondes, ça peut être... Il y a des gens qui essaient de faire avec de la lumière, donc ça marche bien quand c'est des cancers de la peau, parce qu'il faut que la lumière quand même pénètre. Si vous avez un cancer des os, la lumière, elle ne va pas pénétrer jusqu'aux os, donc ça ne marchera pas. Mais on peut tuer des cellules cancéreuses avec différentes manières, grâce à des nanoparticules, qui sous un certain signal, donc lumineux ou thermique, vont détruire la cellule cancéreuse.
Est-ce qu'il y a donc le gros avantage, vous me disiez tout à l'heure, en fait,
de ne pas toucher aux cellules saines.
Voilà. Du coup, on arrêterait évidemment d'avoir tous les dommages collatéraux.
Oui, parce que tous les anticancéreux qui existent actuellement, donc c'est des molécules qui sont toxiques, bien sûr, contre la cellule cancéreuse, mais qui sont aussi toxiques pour d'autres parties du corps, pour les organes, pour le foie, pour les reins. Donc en fait, c'est jamais très propre comme technique. Alors on préfère tuer la cellule cancéreuse et tuer en même temps plein de cellules saines, plutôt que de laisser la cellule cancéreuse tuer le patient. Mais en même temps, si on avait moyen de tuer que la cellule cancéreuse, ce serait bien plus bénéfique pour le patient, qui résisterait beaucoup mieux aux traitements contre le cancer, qui sont quand même des traitements très difficiles actuellement. Quand on parle de chimiothérapie, tout de suite, ça fait peur.
L'autre chose, j'ai entendu parler de régénération moléculaire. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, on peut imaginer ce qu'il y a derrière. En quoi la nanotechnologie peut aider à cette régénération? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et en quoi elle peut y aider?
Une fois de plus, ce n'est pas les nanotechnologies, c'est les nanosciences. Donc, la médecine a été fortement impactée aussi par tout ce qui est nanosciences. Et donc maintenant, oui, avec les cellules souches, etc., on sait faire de la régénération cellulaire, on sait régénérer des os en mettant aussi des matériaux céramiques. Et l'os va se reconstruire autour de ce matériau céramique qui va servir de guide, par exemple.
La régénération moléculaire, enfin, on en entend parler, mais est-ce que ça existe déjà? Je sais pas.
Oui, il y a des gens qui le font, oui. On sait cultiver de la peau, on sait tout ce qui est... Alors, c'est des techniques qui coûtent encore cher, qui sont encore à l'échelle du laboratoire.
Et qui sont marginales encore.
Mais ça va se développer.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer à horizon 5-10 ans en cette matière?
C'est-à-dire qu'on pourra reconstituer au niveau de la médecine, c'est pas ma spécialité, mais tout ce que je lis là-dessus, j'ai l'impression qu'on peut tout imaginer.
C'est-à-dire, on pourra faire un cœur un jour?
On peut tout réparer. Oui, je pense que oui, on peut tout réparer, on peut tout... Actuellement, on en est à travailler. Vous savez, il y a cette boîte qui a fait un cœur artificiel. Donc actuellement, on fait des organes artificiels pour pallier à la défaillance d'organes naturels. À l'échelle de 20 ans, je pense qu'on saura refaire d'autres organes naturels pour remplacer les organes malades.
Voilà. Vous avez bien fait de venir, hein, mais je pense que je suis d'une ignorance crasse, mais sans vouloir être désagréable avec les auditeurs, je pense que je ne suis pas tout à fait le seul. Alors, dernier champ d'application, c'est les champs d'application énergétiques. Vous vouliez parler, entre autres, du photovoltaïque et donc, évidemment, des incidences que ça peut avoir. Alors, dites-nous tout.
Oui, pour moi, l'énergie, ça a encore plus de potentiel. Enfin, c'est encore plus important que tout ce qui est médical, parce que c'est le défi du 21e siècle, c'est autour de l'énergie. Est-ce qu'on va continuer à brûler toutes les énergies fossiles? Est-ce qu'on va continuer à prendre le risque du nucléaire, alors qu'il y a moyen, maintenant, avec les énergies propres, de pouvoir remplacer progressivement... ces énergies sales, entre guillemets, parce que même le nucléaire qui n'émet pas de CO2, ça génère des déchets, on ne sait pas quoi en faire.
Hein, alors expliquez-nous, parce que moi ce que j'ai souvent entendu, c'est que justement on n'avait pas d'alternative parce que les éoliennes, ce n'est pas assez productif, ou le photovoltaïque, ce n'est pas...
Les alternatives, c'est un mélange de tout ça. Je veux dire, c'est sûr que les éoliennes, il faut qu'il y ait du vent. Pour utiliser les cellules photovoltaïques, il faut qu'il y ait de la lumière. Mais maintenant, les cellules photovoltaïques, par exemple, elles sont tellement plus efficaces qu'il y a 10 ans que même quand il fait gris, comme aujourd'hui à Toulouse, on peut fabriquer de l'électricité. Donc on en fabrique moins que quand il fait un beau soleil, mais on en fabrique quand même. Donc ça permet quand même d'être optimiste pour l'avenir. Et les nanosciences là-dedans sont aussi très présentes parce que L'énergie photovoltaïque, dont vous avez tous vu ces panneaux photovoltaïques, c'est, du point de vue des matériaux, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Il y a plusieurs couches qui interagissent les unes avec les autres. Donc ce qui est très important, c'est ce qui existe entre les différentes couches de matériaux. Et là, quand on a un contrôle au niveau du nanomètre, ça permet vraiment de facilement doubler, tripler l'efficacité des cellules photovoltaïques. C'est ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Donc actuellement, je crois que le coût de l'énergie photovoltaïque, c'est un peu plus du double de l'énergie nucléaire. Mais si on arrive encore à gagner un facteur 2, bah ça y est, on est au niveau de l'énergie nucléaire. Et je pense que quand on regarde les toits de la ville de Toulouse, il y a de la place pour mettre des panneaux photovoltaïques partout, quoi.
Dans une précédente émission, on avait dit que, quelqu'un avait dit en plateau que si on avait des panneaux solaires justement sur tous les toits de Toulouse, on divisait la consommation d'énergie par deux à l'échelle d'une ville comme Toulouse.
Oui, mais je suis pas surpris. Il y a un potentiel énorme. Alors, les éoliennes, c'est pas le même potentiel, et puis en plus, on pourra jamais faire du vent s'il y a pas de vent. Hein, donc c'est.
Non, par contre, on peut faire des éoliennes en nanocarbone, ce qui permet en fait qu'elles soient plus légères.
Et donc, oui, voilà. Si au niveau des matériaux, ça existe d'ailleurs. Il y a des Chinois qui fabriquent des pales d'éoliennes à base de nanocarbone, et ils les fabriquent pas cher en plus, et donc c'est très très efficace. Mais de toute façon, toutes les énergies qu'on dit propres, renouvelables, ça va être un mélange des différentes énergies. Et je pense que le soleil, c'est quand même l'énergie évidente, quoi. Donc il faut l'utiliser au maximum. Et quand ce sera rentable, les gens s'équiperont tous, parce qu'on y aura tous intérêt.
Alors, on aurait pu parler de d'autres champs d'application, mais c'est déjà un premier panorama et qui met l'eau à la bouche, en tout cas, et qui permet d'imaginer, d'entrevoir ce que serait notre monde à horizon, quoi, 10, 20 ans. Enfin, ça peut venir assez rapidement.
Je pense, hein.
10, 20 ans, en tout cas, c'est assez, assez phénoménal. On va faire une deuxième pause musicale et puis après, on va voir peut-être les questions que ça pose, questions sanitaires et questions éthiques.
Plaisance, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission ce matin, donc nanotechnologie, avenir ou danger. Je vous rappelle que nous sommes avec Gwenaël Rappen, professeur à l'université Paul Sabatier, chercheur au CMS-CNRS, et qui travaille dans un laboratoire spécialisé dans les nanosciences. Et alors, si vous n'avez toujours pas compris pourquoi on parle de nanotechnologie, décidément j'ai du mal, dans le cadre de Vivante Église, maintenant vous allez comprendre peut-être davantage. Alors pour les questions éthiques que pose ce type de recherche, donc je me suis appuyé sur un court document de la Conférence des évêques de France du département Recherche et Innovation, Service National Famille et Société, qui revient un peu donc sur cette réalité et entre autres qui pose quelques questions. La première question éthique qu'il pose est la suivante, celui de l'intrusion souterraine de nanoparticules privilégiant plus la performance technologique et la rentabilité commerciale que la perception de leurs risques potentiels, entre autres de leur toxicité. C'est vrai que le fantasme, alors partons du fantasme, on se dit, mon Dieu, s'il y a des nanotechnologies partout, dans tout ce qu'on utilise, en fait, ça veut dire qu'on croit, il y a quoi, des nanoparticules, en fait, donc artificielles qui sont créées, et comme pour, on va dire, aujourd'hui, l'agriculture et autres, évidemment, dans l'esprit des gens, c'est tout de suite danger. Qu'est-ce que vous répondriez à cette crainte ?
Ben déjà, je dirais que les nanoparticules, il y en a depuis toujours, dès que l'homme a commencé à faire du feu, par exemple. On fait un feu de bois, on dégage des nanoparticules de carbone. Donc, vous faites tourner votre moteur diesel, vous dégagez un maximum de nanoparticules de carbone aussi, et qui sont très toxiques parce qu'elles sont vraiment de petite taille. Donc, il faut bien sûr, penser à toutes les nouvelles nanoparticules qu'on produit, et il faut contrôler, il faut tester leur toxicité. Mais il ne faut pas non plus avoir peur en se disant « Ah, c'est des nanoparticules, ça va être forcément toxique ». Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on baigne déjà, le monde baigne déjà dans un monde de nanoparticules. Parce que là, dans Toulouse, là, vous faites du vélo le matin, vous respirez des nanoparticules parce qu'il y en a plein par les feux de cheminée. Les feux de cheminée, c'est une horreur écologique, hein, pour moi. Et puis, bien sûr, les 80% de véhicules diesel, ça dégage énormément de nanoparticules. Et ça, c'est des millions de tonnes chaque année. Alors, le marché des nanoparticules, quand on parle de nanoparticules dans les entreprises, des nanoparticules innovantes, des nanoparticules de fer pour la médecine, par exemple, des choses comme ça, c'est déjà des volumes beaucoup plus faibles. Et en général, c'est fait de manière très propre. Et en tout cas, en Europe, c'est très, très, très contrôlé. Nous, au laboratoire, on a reçu une enquête. On nous a demandé la liste de toutes les nanoparticules qu'on produisait au laboratoire, qu'on utilisait. Qu'est-ce qu'on fait pour les stocker, comment on les suit, etc. Il y a aussi d'autres laboratoires en France et en Europe qui étudient leur toxicité. En France et en Europe, c'est quand même très bien fait, très cadré. Les entreprises même s'en plaignent, parce que malheureusement, les entreprises en Europe sont soumises à ces règles européennes, avec REACH, etc. Vous avez peut-être entendu parler de ce genre de règlement. Alors qu'à l'étranger, ce n'est pas le cas. En Amérique du Nord, les États-Unis font ce qu'ils veulent, en Asie aussi. Et donc, de plus en plus, ces entreprises, quand elles veulent fabriquer ce genre de choses, ben, elles vont ailleurs.
On retrouve les mêmes problématiques dans le monde agricole, en tout cas. Il y a un vrai parallèle qu'on peut faire avec le monde agricole.
Oui, tout à fait. Oui. Les règles ne sont pas les mêmes partout, et donc les gens en jouent. Voilà. Mais il ne faut pas... Je veux dire, comme toute chose, il y a une toxicité liée à un nouveau produit. Il faut que ce soit contrôlé, étudié et connu. Moi, je pense, on parlait tout à l'heure des matériaux à base de nanotubes de carbone. Ce qu'il faudrait mettre en place, c'est des filières de tri. On le fait pour les ampoules, parce qu'il y a du mercure à l'intérieur. Vous avez fini d'user votre raquette de tennis, et ben, à Décathlon, vous ramenez votre raquette de tennis pour qu'elle soit traitée de manière différente que juste cramée dans des cheminées, dans un incinérateur. Il faut que les déchets soient de plus en plus contrôlés. Mais le risque principal, il est là, en fait. Il est dans la vie du produit. Il n'est pas dans sa production. Les productions sont très propres en général. Mais ensuite, ben voilà, vous cassez votre raquette de tennis, ça peut commencer à dégager des nanotubes de carbone, ça peut commencer à dégager des choses qui seront toxiques. Les nanotubes de carbone, c'est un bon exemple parce que sa forme, ben c'est comme les fibres d'amiante. Donc maintenant, quand on dit amiante à tout le monde, les gens savent que c'est toxique, que ça pénètre les barrières, que ça se stocke dans les poumons, etc. Les nanotubes de carbone, ce sera la même chose. Donc il faut, de la même manière qu'on traite les déchets amiantés, de la même manière, tous les matériaux qui contiennent des nanotubes de carbone, il faut qu'ils soient connus, avec un petit logo dessus, et on sait que quand on s'en débarrasse, il faut s'en débarrasser dans une filière particulière.
Alors, les autres dangers, le temps avance, hélas, seraient entre autres toutes les applications, on va dire, terribles qui pourraient être, en être faites. Entre autres, on parle donc d'hybrides machines-animaux, donc là, ou alors on pense aussi à, comment dire, à l'homme augmenté, enfin au transhumanisme. Qu'est-ce que vous nous citeriez comme exemple qui peuvent être des dérives, justement, graves de l'utilisation de ces nanotechnologies?
Je pense que dans toute nouvelle technologie, il y a toujours Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a toujours possibilité de faire énormément de bien, et en parallèle, si on a l'esprit mal tourné, énormément de mal. Par exemple, dans les années 2000, on avait parlé de la brebis Dolly, là, quand on faisait du
clonage.
Bon, bah, le clonage, ça peut avoir des applications très intéressantes, mais ce genre de choses, je ne sais pas, si on a son chien qui meurt, on veut faire un clone de son chien, déjà c'est stupide, mais on peut même imaginer beaucoup de choses très négatives. Au niveau de...
Quelles seraient des dérives graves, en fait,
Les dérives, c'est que maintenant, tout devient possible. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir un cerveau qui va calculer aussi vite qu'un ordinateur, en se rajoutant des puces qu'il calcule, etc. Il y a, par exemple, des travaux récents qui ont été faits, où il y a des aveugles qui alors, ils ne voient pas comme nous, on voit. Il n'y a pas encore cette efficacité-là. Moi, en face de moi, j'ai des milliers de pixels dans mon champ visuel. Eux, pour l'instant, ils ont une vingtaine de pixels. Je crois que c'est 4 x 4, 16. Donc, en fait, ils commencent à voir des formes. Et ça veut dire que si c'est possible... compliqué, ce sera encore plus possible. Mais le bien, c'est que ces aveugles, ils vont pouvoir revoir grâce à des capteurs de lumière, grâce à des capteurs reliés au cerveau, etc. Mais après, on peut aussi imaginer plein de choses. On peut imaginer des militaires qui vont voir la nuit parce qu'ils auront des capteurs infrarouges à la place de capteurs dans le visible. Et donc, on peut imaginer, il y a beaucoup d'applications imaginables et il y a des gens aux États-Unis dans le département de la recherche de l'armée américaine, la DARPA, qui travaille là-dessus, c'est d'avoir vous parliez d'hommes augmentés, mais avoir des soldats augmentés. Des soldats qui auront un exosquelette qui leur permettront de porter des charges beaucoup plus grandes.
L'exosquelette, c'est donc une espèce de squelette artificiel, en fait.
C'est en fait un peu, il serait un peu, ce qu'on voit, c'est un peu comme dans des cages qui leur permettent de décupler leur force. De décupler ou d'augmenter d'un facteur 100 leur force. Donc porter des charges très importantes, pouvoir... c'est un peu l'homme qui valait 3 milliards, mais encore un peu bricolé. Mais en tout cas, on arrive à ce genre de possibilités. Vous voyez, une série des années 80.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, à l'échelon international, justement, une espèce de, je sais pas, de cellule éthique qui se met en place et qui travaille à régir ces domaines de recherche ou ces applications potentielles, ou est-ce que c'est absolument pas le cas?
Pas à ma connaissance. Pour l'instant, les travaux se font et il n'y a pas de comité éthique mondial. Hein.
Mais il y a des comités éthiques par pays. Donc, par exemple, est-ce qu'en France, je ne sais pas, le comité consultatif national d'éthique a planché sur les nanotechnologies déjà ou jamais?
Au niveau de la médecine, énormément, au niveau de tout ce qui est transhumanisme, etc. Mais je pense que c'est un peu illusoire de se dire la France ou l'Europe va réglementer tout ça. Il y aura toujours des gens ailleurs pour tenter des choses.
On peut montrer l'exemple quand même.
Oui, bien sûr, on peut montrer l'exemple. Non, je pense qu'en France, ça marche bien ce genre de choses, mais...
C'est-à-dire qu'il y a déjà des domaines de recherche qui sont un petit peu interdits en France ou sur ce sujet ou... Vous parlez par exemple de cet homme augmenté. Est-ce qu'il y a des laboratoires qui potentiellement pourraient travailler là-dessus en France?
Je ne connais pas de laboratoire qui travaille là-dessus.
D'accord, parce que c'est interdit.
Non, à ma connaissance, c'est pas strictement interdit non plus. Mais je sais qu'il y a des travaux qui sont faits en Amérique du Nord là-dessus. Voilà.
Alors, pour finir, on va peut-être finir sur une note positive. Si vous deviez nous donner, pour vous, une application, vous en avez cité plein, hein, peut-être que vous voulez en citer une autre, qui dise que ces nanotechnologies, il faut à la fois être prudent, mais en même temps que c'est aussi un avenir potentiellement heureux. Qu'est-ce que vous citeriez ou reciteriez comme exemple?
Moi, je pense que le plus important, c'est tout ce qui va être efficacité énergétique. Et là, les nanosciences sont partout. Je veux dire, si votre ordinateur portable ou votre téléphone portable avec la batterie, ça peut fonctionner 2 mois au lieu de 2 jours, tout le monde sera content et on consommera tous beaucoup moins d'énergie. Et une des solutions du problème du nucléaire, du problème de l'énergie en France, c'est qu'il faut surtout qu'on consomme moins et mieux, moins de gaspillage. Et actuellement, un ordinateur, quand vous allumez votre ordinateur, vous vous rendez compte qu'il chauffe énormément, parce que 90% de l'énergie que vous mettez dedans est juste transformée en chaleur. Parce que c'est une vieille technologie, on a juste gravé de plus en plus fin, on a des fils qui sont de plus en plus proches, et donc on fait du chauffage. Ça n'a pas de sens. Donc il y a énormément, dans tout ce qui nous entoure, il y a beaucoup d'informatique intégrée. Et là déjà, si on avait vraiment de l'informatique quantique, donc la prochaine génération d'ordinateurs, tout ce qui est ordinateur moléculaire, ça permettrait d'économiser énormément d'énergie, et donc de faire moins intervenir le nucléaire, par exemple, ou le charbon, ou les énergies fossiles.
Voilà, donc on refera une émission sur les ordinateurs moléculaires pour nous expliquer ce que c'est, puisque c'est semble-t-il, on serait proche peut-être de ce type de technologie. Merci beaucoup en tout cas Gwenaël Rappen d'avoir pris le temps de venir dans cette émission Vivante Église et de vous être soumis à ce difficile exercice de vulgarisation. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Paul Sabatier et puis que vous avez eu un directeur de recherche qui a eu un prix Nobel, c'est ça ?
Jean-Pierre Sauvage à Strasbourg, oui, qui a eu le prix Nobel en octobre 2016 sur les machines moléculaires.
Voilà, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.